Frères et sœurs, les amis, nous voilà donc arrivés au troisième dimanche de carême, où nous est rapportée l'affaire des Galiléens et de la tour de Siloé. Alors le premier point, c'est le contexte qui n'est à ne pas oublier, c'est que tout cela se passe au moment où Jésus monte à Jérusalem, c'est-à-dire au lieu où ce dernier va manifester au monde que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Alors vous me direz, il y a là un paradoxe, comment parler d'amour et de miséricorde alors que on va crucifier le Seigneur. Alors, premier fait divers, l'affaire des Galiléens, en soi elle n'a rien vraiment d'étonnant puisqu'elle se passe sous le régime de la cruauté de Pilate et qui régnait sur le territoire à ce moment-là, et on suppose qu'ils ont été massacrés alors qu'ils se trouvaient tous au temple pour leur pèlerinage. Quant à l'écroulement de la tour de Siloé, ben c'est un événement comme il peut y en arriver malheureusement aujourd'hui, un tremblement de terre, des fissures comme on a pu le voir dans des immeubles qui finissent par s'écrouler, donc il n'y a là rien d'extraordinaire. Mais l'éternelle question, c'est celle de l'origine de la souffrance et du mal, problème jamais résolu et auquel nous n'avons pas, nous, également de réponse directe. Par contre, ce qui est clair et net, c'est que, contrairement à ce qu'on entend couramment, les gens disent, ben, la souffrance et le mal sont la conséquence du péché, eh bien, de manière très catégorique, Jésus va répondre qu'il n'y a pas de lien direct entre la souffrance et le péché. On voit cela très bien rapporté dans le livre de Job, où Dieu va complètement rejeter tous les arguments des amis, soi-disant amis de Job, qui viennent se lamenter auprès de lui. Jésus est donc, on peut dire, acculé à répondre à cette question du mal qui se pose évidemment pour tout le monde et pour chacun, et bien évidemment pour les disciples, ces disciples qui n'échappent pas justement à la tentation de faire le lien entre le mal, les souffrances et le péché. Et la réponse de Jésus est catégorique, non, je le redis encore, il n'y a pas de lien direct entre la souffrance et le péché. Ces Galiléens n'étaient pas plus pécheurs que vous et que moi, y compris des gens qui ont été massacrés dans la chute de la tour de Siloé, ils n'étaient pas plus pécheurs que vous et que moi. Mais Jésus va à partir de ces deux faits, inviter les apôtres à, une fois de plus, une véritable conversion. Et la conversion, c'est la qualité avec laquelle je vais convertir mon regard d'abord, avant les actes. Et la parabole du figuier, qui termine le texte d'aujourd'hui, va peut-être mieux aider à comprendre ce dont il s'agit. Oui, à vue humaine, un figuier est stérile, ben ça c'est le bon sens, qui épuise inutilement le sol de la vigne en question, ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de le couper ou de l'arracher. Hein. Mais les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, c'est aussi une remarque qui domine tout le temps de carême, mais que ce pécheur se convertisse et qu'ils vivent. Nous trouvons ça dans le livre du prophète Ézéchiel déjà. Et cette conversion, quelle est-elle? La conversion que Jésus demande à ses disciples ne porte donc pas d'abord sur les comportements. Ce qu'il faut changer de toute urgence, si je puis dire, c'est notre représentation de Dieu, c'est-à-dire quel regard je porte sur Dieu, un Dieu punisseur. Alors il est vrai qu'on est dans la logique de l'Ancien Testament où On le voyait en règle générale qu'un Dieu vengeur et qu'un Dieu punisseur, mais ce n'est pas le regard que demande le Christ, bien au contraire. C'est en face du mal qu'il faut nous rappeler que Dieu est tendresse et pitié, comme dit le psaume de ce même dimanche, troisième du carême, mais que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire pencher sur nos misères. C'est ça, presque l'étymologie du terme miséricordieux. Alors cela va signifier pour nous que, premièrement, ce n'est pas Dieu qui nous envoie les misères, et deuxièmement, dans nos souffrances, il est à nos côtés. Même, je dirais mieux, il porte nos souffrances. Et la conversion, donc, qui est demandée, tout simplement, c'est de savoir nous mettre une fois pour toutes à croire, à adhérer à l'infinie patience et miséricorde de Dieu. Il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas ça une des réponses à donner au mal, même si cette réponse est difficile à accueillir et à accepter. Alors restent ces deux phrases, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même manière. Elles veulent dire quelque chose, comme par exemple, l'humanité court à sa perte. On le voit bien aujourd'hui. L'humanité court à sa perte parce qu'elle ne fait pas confiance à Dieu. Et c'est toujours la même histoire. Nous sommes un peu, surtout en ce temps de carême, comme le peuple d'Israël au désert, dont saint Paul rappelait l'aventure dans la deuxième lecture de ce même dimanche. Et nous sommes presque acculés à une sorte de choix. Notre liberté doit choisir entre la confiance, se fier avec, c'est ça que ça veut dire, se confier, se fier à quelqu'un dans l'abandon, et le soupçon. Choisir la confiance, c'est croire, une fois pour toutes, que le dessein de Dieu est un dessein bienveillant. Et l'autre attitude, c'est le contraire. Ce simple retournement à la fois du regard et de l'intelligence de notre cœur, nous en sommes bien conscients, je l'espère, changerait complètement la face du monde. Convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à la bonne nouvelle, c'est ce que nous disions le jour du mercredi des cendres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen.